C'est la deuxième heure de ce 1280e Sweet Home Chicago. L'invité de la deuxième heure est Manu Galvin, pionnier de la guitare blues en France. Il a joué avec les plus grands. Il a accompagné les bluesmen présents en France dès la fin des années 70 comme Sugar Blue, puis d'innombrables stars de la chanson et de la pop, parmi lesquels on peut citer Maxime Le Forestier, Jane Birkin, Eddie Mitchell, Renaud, Jean-Patrick Capdevielle, Alain Souchon, Michel Jonas, Francis Cabrel, Zazie, etc. Il a aussi croisé la six-corde avec des pointures comme Melvin Taylor, Eddie Shaw, Jimmy Johnson ou Eddie C. Campbell. Ce passionné de guitare, toujours actif, compagnon de route de longue date du grand Jean-Jacques Milteau, nous livre avec bonheur quelques belles tranches de vie et anecdotes avec une extrême gentillesse, une belle passion et un cœur gros comme ça. On évoque dans cette première partie de l'interview les débuts et l'éveil musical de Manu Galvin, le goût du rock au départ avec les Inevitable Beatles et Rolling Stones, puis l'étincelle du blues avec les Trois Kings et Muddy Waters, les premiers groupes, les premiers boeufs, les rencontres comme celle avec Vincent Buchet, la scène blues française du début des années 80 avec Patrick Verbeek, Benoît Blueboy et Jean-Jacques Milteau. Et puis on évoque bien sûr Chris Lancry, Mauro Ceri, Bill Derem, puis les artistes dits de variété qui a accompagné Manu Galvin. On cite Jean-Félix Lalanne, on s'attend tarde tout naturellement sur Maxime Le Forestier avec qui il travaille depuis 1991 et Jane Birkin dont la collaboration pour la tournée Je suis venu te dire que je m'en vais aura été le plus beau souvenir de scène de toute la vie de musicien de Manu Galvin. On parle aussi du statut des bluesmen véritables, entre guillemets ceux qui sonnent comme personne d'autre à l'instar de Jimmy Johnson par exemple, et puis on écoute également le saxophoniste Eddie Shaw ou Melvin Taylor, fin technicien de la guitare. Manu Galvin est un authentique et profond amateur de blues, alors voici cette interview gourmande pour qui aime son blues trempé dans la guitare jusqu'à l'usure des frettes et des cordes avec de vrais morceaux de vie dedans. La seconde partie de cette très belle interview de Manu Galvin sera diffusée la semaine prochaine. Manu Galvin, bonjour Manu.
Alors bonjour Marc.
Très heureux de t'accueillir dans Sweet Home Chicago. C'est la première fois que tu interviens, que je peux t'interviewer, mais ça fait des années qu'on te connaît, les auditeurs te connaissent bien sûr. Tu es né en 1958 à Paris, jusque-là c'est bon ?
Ah, jusque-là c'est bon. C'est pas toujours très plaisant à entendre hein, l'année de naissance, mais enfin bon, c'est pas grave.
Ouais. Je voulais savoir si, puisqu'on peut évoquer peut-être tes débuts, tes années de formation, si tu avais grandi dans un environnement spécifiquement musical, est-ce qu'il y avait des mélomanes, des musiciens dans ta famille ou parmi tes amis d'enfance, Manu ?
Alors, en fait, j'ai grandi dans un milieu pas spécialement favorisé. Enfin, j'avais des parents qui avaient des professions tout à fait humbles, comme on dit, puisque ma maman était infirmière et mon père s'occupait de découper des plaques de tôle dans des usines. Et en fait, tout le temps de ma prime jeunesse, il y avait sur le même palier de l'endroit où on habitait un monsieur avec qui on a sympathisé rapidement, qui connaissait très bien la musique et qui, de temps en temps, avait dirigé dans sa jeunesse des orchestres.
Ouais.
Et donc, une fois, il était venu voir, dire à mes parents, mais il faut qu'ils apprennent le solfège, les enfants, tout ça. Bon, je suis le seul qui a été désigné pour ça. Et donc, j'allais chez lui une fois de temps en temps, et il sortait des partitions classiques. En général, c'était des valses de Strauss, des choses comme ça. Et il me faisait chanter toujours la ligne mélodique. Alors, j'ai appris un tout petit peu à lire la musique, et surtout, ça a développé un peu l'oreille. Et je pense que l'attirance que j'ai eue pour la musique, je pense que lui, il y est pour beaucoup, en fait.
D'accord. C'est intéressant. Et effectivement, parfois, dans les interviews, le solfège revient comme quelque chose qui constitue un petit peu un pinceau. Et toi, ça a été une porte d'entrée, vraiment.
En fait, j'ai appris à lire un tout petit peu, parce que je déchiffre les partitions. Donc, je sais que pour moi, après, avec le recul, j'ai pas été assez assidu dans l'étude du solfège, parce que j'ai regretté longtemps, et toujours hein, d'ailleurs, de ne pas être un lecteur forcené, comme j'en connais quelques-uns autour de moi, des guitaristes qui lisent très bien, et je regrette beaucoup ça, j'ai pas poussé très loin cette chose-là, parce que la guitare fait partie des instruments qu'on peut jouer sans spécialement travailler le solfège.
C'est vrai.
Simplement, il faut prendre le solfège comme une espèce de roue de secours, un outil quand même relativement content de trouver dans certaines situations. Voilà,
oui,
j'ai pensé
souvent. Ça reste un mode de transmission de la musique hors audio. Bien sûr. Et justement, guitare, Manu Galvin, spécifiquement, indépendamment des styles, hein, quels sont les guitaristes qui t'ont fait le plus vibrer étant jeune, en fait ?
Ah, alors, il y en a quelques-uns, parce que je ne sais pas si on peut les regrouper en catégorie, enfin, dans les styles de musique. Mais, alors, juste une chose, c'est que moi, l'attirance pour le blues, elle est venue quand j'étais au lycée Montreuil-sous-Bois, là où j'ai habité. J'ai eu la chance d'avoir dans mes amis directs un copain que je vois toujours d'ailleurs, qui était lui fou furieux de musique, surtout noire.
Ouais.
Les jazzman et les bluesman. Il était mais fou de ça. Et moi, avec les copains avec qui j'étais à l'époque, on commençait à écouter un peu les Beatles, les Stones, voilà, c'était ce qui nous plaisait. Alors, j'ai appris les premiers accords, moi j'avais 16 ans, quoi, je pouvais 15-16 ans, les premiers accords, et lui nous écoutait jouer, puis il nous disait, mais quand même, vous voulez pas écouter des trucs, un peu savoir d'où ça vient, en gros c'était ça. Et quand on l'a vraiment sympathisé, il avait une discothèque, Et donc, les premiers que j'ai eus, c'était pour les Beatles et les Stones, par exemple. Ensuite, très vite, moi, j'ai découvert des guitaristes qui m'ont brillé la tête. Bien sûr, en blues, c'était les trois Kings, quoi. Vivi, Albert, Freddy. Ça, c'est des choses, moi, ça m'a laissé, mais carrément, quelque chose, une empreinte vraiment très, très forte. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Alors, les trois Kings, et puis, pour moi, mon préféré parmi tous, c'était Muddy Waters.
Ah oui. Now, when I was a young boy, at the age of five,
my mother said I'm gonna be the greatest man alive. Voilà, et j'ai eu la chance, moi, de le voir. Il était venu à Paris, je crois que ça devait être en
76, peut-être.
76, exactement, à la Maison de la Radio.
Voilà.
Mmh. Et j'étais à ce concert, et c'est le genre de choses. Quand j'ai vu jouer sur scène, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
C'est ça, voilà. C'est le concert révélation, en fait. Hein.
Ah, mais pour moi, ce concert-là, ça a été vraiment une tuerie pour moi. Je me souviens, il y avait Luther Johnson Jr. à la guitare avec Bob Margolin.
Oui.
Bon, après, je crois que c'était Jerry Portnoy qui était à l'harmonica, oui. Ben Topperson, Calvin Jones et Willie Smith à la batterie. Et quand j'ai vu les deux guitaristes, le travail qu'il y avait, les deux, c'était un engrenage, quoi. Vraiment, quand il y en avait un qui jouait tel truc, l'autre était ailleurs. Mais pour moi, j'ai adoré ça, et c'est ça qui m'a vraiment déclenché l'envie de faire des groupes vraiment de cette musique-là.
Et oui, et c'est ça, et c'est à peu près à ce moment-là que tu formes un groupe qui s'appelle Ocha, enfin un petit peu plus tard peut-être.
Exactement, voilà. Vraiment dans les années
1970. Dans la foulée. Ouais.
Donc j'ai dit, Ocha, ça doit dater de 79.
Quels sont les autres membres qui figuraient dans Ocha au départ?
Alors, la formation de base, il y avait François Bodin qui était guitare, Vincent Bûcher qui jouait à l'harmonica,
ouais.
Yves Torchinski qui était à la basse électrique et Yves Teslar qui était à la batterie.
Vincent Bûcher qui était tout jeune à l'époque, dis-moi.
Ah bah, qui était tout jeune, oui, vraiment. Et en fait, Vincent Bûcher, j'ai rencontré, je jouais, moi, à une époque, c'était en 80 peut-être, j'ai eu la chance d'accompagner Sugar Blue.
Ah oui, Sugar Blue.
Qui jouait à l'époque dans un show qui s'appelait Campagne Première, j'avais été faire le bœuf avec lui et Sugar Blue m'avait gardé. Il avait dit ça m'intéresse que tu restes avec moi. De toute façon, j'ai une tournée à l'étranger qui s'y prépare. Est-ce que ça te dit? Voilà. Et un soir où je jouais avec lui dans le club, de temps en temps, je passais, est arrivé ce jeune harmoniciste parce qu'en fait, il jouait dans le métro un peu, il prenait comme ça. Et quand j'ai entendu Vincent Bûcher qui jouait, j'ai demandé, après, j'ai contacté et on a essayé de former un groupe qui était Ocha. C'est parti de là, en fait.
Et alors, à cette époque-là, Manu Galvin, où en était la scène blues française de cette époque? Au tout début des années 80, donc il y avait Patrick Verbeek, Benoît Blueberry, Paul Personne.
Voilà. Alors, Paul Personne, pas tout de suite, pas moi. Donc ceux que je connaissais autour de moi et qui sont des maîtres et des chefs de file, tu as cité Patrick Verbeek évidemment, il y a Benoît Blueboy évidemment, et puis moi tout de suite, moi, là, un gars que je suivais déjà à l'époque, c'était Jean-Jacques Milteau qui faisait pas mal de concerts dans les clubs. Et alors ça, c'est les trois principaux pour moi, c'est les gens, encore une fois, c'était des modèles, quoi. C'était des gens qui avaient des groupes et ça jouait, quoi.
Il y avait déjà Chris Lancry à l'époque, non?
Alors Chris Lancry, évidemment, j'avais vu en concert des fois avec Jean-Jacques Milteau, Chris Lancry, et qui faisait aussi déjà des trucs un peu sous son nom, qui étaient très acoustiques, hein, surtout,
ouais,
même.
C'est vrai.
Puis dans les guitaristes, il y avait Mauro Ceri,
oui.
Qui jouait beaucoup avec Jean-Jacques aussi, voilà.
Et puis qui a accompagné longtemps Bill de Rem, voilà.
Exactement, voilà, exactement. Et bien, en fait, tout à l'heure, j'ai intitulé Jean-Jacques Milteau. Jean-Jacques Milteau, ça a été pour moi la rencontre la plus importante de ma vie, parce que lui, qui est un musicien connu, quand j'ai commencé à le fréquenter, il m'a présenté à d'autres musiciens, J'ai fait des groupes avec lui aussi. On a fait des tas de concerts en groupe, en duo, en trio, mais vraiment pendant des années et des années. Et les gens que Jean-Jacques m'a présentés, les autres musiciens, cela m'a permis aussi d'accompagner des artistes de variété. On pourrait y revenir après.
Mais bien sûr.
C'était le chemin comme ça.
Mais voilà, Manu Galvin, donc tu nous parles de Jean-Jacques Milteau. Effectivement, je pense que c'est une collaboration qui a débuté vers 1988, je crois.
Et... Ah, ça doit être ça, oui. 87-88. Oui. En fait, on jouait dans des clubs à cette époque-là. Voilà, et après, on a beaucoup tourné à partir de 90, on va dire, on a fait plein de concerts.
Oui, vous avez participé à de nombreux enregistrements, y compris avec des invités vraiment de tous horizons. Je voulais savoir, par rapport à Jean-Jacques Milteau, il y aura d'autres questions sur les Bluesmen qu'on a cités plus haut, mais comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux durant toutes ces années? Quelle était l'alchimie entre Manu Galvin et Jean-Jacques Milteau?
En fait, bien souvent, les albums qu'on suivit, et les morceaux qu'on peut trouver sur ces albums-là, bien souvent, c'était la collaboration, c'est qu'il m'amenait, lui, des fois, un thème. Il avait l'harmonica, il me jouait un thème que j'enregistrais, et puis moi je mettais d'harmonie dessus, je faisais les accords, donc on a composé beaucoup de morceaux comme ça, tous les deux, lui pour la mélodie, la mélodie, et moi, on va dire, l'arrangement harmonique, on va dire.
Mmh. Et c'est une collaboration qui continue en 2025, vous travaillez toujours ensemble?
Non, on travaille plus ensemble depuis à peu près 3-4 ans. Je peux te dire que j'ai un problème de santé qui fait que c'est surtout dû à ça, j'ai de plus en plus de mal à jouer, et donc je comme un accord, moi, j'ai dit à Jean-Jacques, je peux plus t'accompagner tant que c'est un guitariste unique, enfin tu vois, je peux pas faire le travail maintenant, donc on se voit toujours, on s'appelle tout le temps, enfin vraiment, on est très très liés de toute façon, mais malheureusement pour moi en tout cas, je ne peux plus assurer sur scène avec lui, quoi.
Such a long, 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 long time. Before the door.
Manu Galvin, il y a d'autres artistes qu'on a cités tout à l'heure, et notamment un certain Patrick Verbeek, notre ami Patrick Verbeek. Je voulais savoir ce que tu gardes du personnage et du musicien de blues qu'il était.
Alors, d'abord, l'homme lui-même, c'était quelqu'un que j'ai toujours trouvé extrêmement sympathique, pour commencer.
C'est pas la peine de me balancer de l'acide sur tes mots. Le diable, comme tous tes amis, m'a lâché beaucoup trop tôt. J'en suis encore un peu baba. Pas si cool que ça, il fallait voir un peu l'état de ce qu'on a retrouvé là-bas. Avec du blues dans le boogie, ils en avaient plein la tête. Oh oui, du blues dans le boogie, ça fait tourner la fête. Blues dans le boogie, d'accord, on pourrait se faire une rumba.
Quelqu'un qui avait une grande connaissance musicale, plein d'artistes, c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup, beaucoup de bluesmen, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié aussi à l'époque où il avait une émission de radio.
Mais oui.
Ça s'appelait De quoi j'aime plaindre aujourd'hui, je crois, c'était de mémoire.
8h du mat, dans mon appart, le soleil tape, j'ouvre un œil et je mate. La fille d'en face qui se déplace, se maquille, s'habille et me sourit. De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui?
J'aimais bien son émission, comme c'était construit, où il parlait de choses et d'autres, et surtout c'était entrecoupé de morceaux qu'il jouait lui en direct. Il avait quelques invités, donc voilà. Puis il faut quand même reconnaître que dans sa manière de jouer, quand j'étais gamin, enfin plus jeune, on va dire gamin, c'est un peu exagéré, quand j'étais plus jeune, il fait partie des gens que j'avais écoutés, forcément, et comme je disais tout à l'heure, il faisait partie pour moi des chefs de file, quoi. Ici en France, c'était des gens, voilà, il inspirait, il a fait école.
Oui, c'est vrai.
École, c'est sûr.
On le considère comme un des quatre mousquetaires,
c'est sûr.
Effectivement.
Mais bien sûr, puis en plus, il jouait à la fois la guitare normale, il faisait du slide, enfin, il faisait du bottleneck, tout ça. Voilà, c'est des choses qui m'ont toujours plu, hein, c'est clair.
Patrick Verbeek, et puis on a parlé tout à l'heure de Benoît Blueboy. Benoît Blueboy, est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de lui? Je crois que c'est le doyen de tous ces pionniers du blues français. Il est toujours actif musicalement, Benoît?
Il est toujours actif, oui, toujours actif. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi... j'ai dû faire un album avec lui, je crois. Et puis, on a fait quelques concerts où j'ai eu la chance de l'accompagner aussi. Bah, moi, Alors, c'est marrant, avec Benoît Blueboy... Comment dire? Quand j'étais à l'âge où j'avais 20 ans à peu près, pour gagner un peu de sous, je travaillais dans un collège... à Paris,
ouais.
Et dans les élèves, en fait, il y avait la fille, une des filles de Benoît Blueboy, qui n'est plus de ce monde maintenant, malheureusement. Et ce qui fait que quand j'ai le premier concert que j'ai fait avec son père, elle n'était pas au courant que je faisais de la musique. Et donc, le premier concert, elle est arrivée, elle a dit à son père, mais alors j'avais un surnom à l'école, les gamins m'avaient formé Gribouille. Et elle a dit à son père, elle fait, mais c'est Gribouille qui a la guitare avec toi. Bon, et on a rigolé avec ça, avec Benoît, parce que c'était un truc, voilà. Elle, sa fille s'appelait Loudella, voilà, je me souviens.
Oui.
Et voilà, et donc j'ai fait quelques concerts avec lui. Et pareil, Benoît, j'adore de cette manière, enfin je veux dire, il a une attirance particulière pour la musique de la Nouvelle-Orléans, par exemple, j'adore ça, cette manière de jouer.
Souvent je suis en retard, c'est parce que je roule doucement, je suis pas toujours à l'heure, mais c'est pas bien important, j'en vois qui font la gueule. J'étais là avant, m'en fous, je sais que j'ai raison. C'est moi qui tiens le volant.
Il joue pas, enfin il joue pas, il sait le faire, mais je le reconnais surtout dans la musique, un peu tout ce qui est Zydeco. Tu vois, c'est là-dedans qu'il est, pour moi, qu'il est le meilleur. J'adore ça.
Loudella, qui était également le nom de la guitare de Jimmy Rogers, de mémoire, si je me trompe pas.
Peut-être, là, je ne sais pas, mais. Voilà.
Manu Galvin, il y a d'autres artistes bien sûr avec qui tu as travaillé, et là on arrive à un autre pan peut-être de ta carrière. Tu as travaillé, je vais te citer quelques noms, avec Eddie Mitchell, Renaud, Jean-Patrick Capdevielle, Alain Souchon, Michel Jonas, Francis Cabrel, Zazie et puis bien d'autres. Je voulais savoir quel rapport ces différents musiciens qui sont très exposés médiatiquement et qui sont emblématiques d'une période, pour certains ou même parfois passés au statut de légende, je voulais savoir quel rapport ils entretiennent avec le blues. Autrement dit, d'après tes expériences musicales avec eux, Manu, est-ce que tu peux nous dire si pour certains le blues fait partie de leur ADN musical?
Alors, effectivement, le nom que tu as cité, effectivement, c'est des gens avec qui j'ai collaboré à un moment donné de ma vie. T'en as oublié un qui est, pour moi, qui est très important, qui est Maxime Le Forestier.
Oui, mais je vais en parler après, c'est pour ça, je l'ai gardé pour la fine bouche.
Mais alors, juste une chose, parce qu'à part, le blues, pour les gens que tu as cités, par exemple, ils n'ont pas a priori un amour particulier pour cette musique. En revanche, quelquefois, dans ces collaborations, c'est le style que j'ai toujours joué. Si tu veux, même quand j'ai fait de la variété, quand j'avais improvisé sur des choses, je gardais ce style-là parce que ça fait partie de moi maintenant et que je joue ça.
Et puis parce que ça leur plaisait aussi, peut-être.
Et en fait, c'est quelque chose qui leur plaît finalement d'avoir ça dedans. Mais ils viennent pas te dire, ah, j'adore le blues. Non, c'est pas ça. Bien que, des gens comme Michel Jonas, qu'on va citer, qu'on fait quelques morceaux avec, où il y a le mot blues, voilà, il en a fait quelques-uns comme ça.
Mmh. Je sais ce qu'il te faut. Du blues, du blues, du blues. Du blues, du blues.
Alors, ils aiment bien cette musique-là, mais a priori, c'est pas seulement pour ça qu'on t'appelle, mais si c'est présent, tant mieux. Ouais. Ça leur plaît plutôt. Et alors, justement, maintenant, je disais tout à l'heure, je parlais de Maxime Le Forestier, que j'accompagne depuis 1991.
Oui, ça, c'est incroyable. Ça fait
et la tournée vient de se terminer il y a 3 jours. Voilà, le dernier concert qu'on a fait, je pense pas qu'il y en ait d'autres après, mais bon, on s'est arrêté là. Je sais que lui, il a toujours fait appel à moi justement pour avoir cette teinte-là.
Ouais.
Par exemple, dans une des belles tournées, ça a toujours été bien avec Maxime Le Forestier, mais une des belles tournées qu'on a faites, c'était celle qui s'appelait Plutôt Guitare, qui a tourné, en fait, on a fait 2001 à 2005, je crois, à peu près, et c'était, à l'époque, on était 4 guitares acoustiques sur scène. Donc il y avait Maxime qui jouait et qui chantait, bien évidemment, il y avait Jean-Félix Talane, qui était avec lui, qui l'accompagnait. Ils se connaissaient depuis un certain temps, donc plein de choses comme ça. Et chacun avait demandé à un guitariste de venir compléter la formation pour que ce soit un quartet. Jean-Félix Talane a pensé à Michel Aumont, et Maxime m'a appelé directement pour me dire, moi je veux que tu sois là. Et donc, il y avait dans les styles de guitare, Maxime qui joue lui beaucoup d'arpèges, des choses comme ça, Michel Aumont qui joue aussi très en arpège, avec une influence un peu tout ce qui est Marcel Dadi, choses comme ça, et l'arpège, des morceaux en plus, sans forcément des basses alternées tout le temps, mais des morceaux vraiment de la dentelle comme ça, Jean-Félix qui connaît aussi ce style parfaitement, qui jouait ça très bien, et moi sur le côté, qui amenait cette teinte un tout petit peu bluesy. Et c'est ça qui a fait un peu, je ne vais pas parler d'alchimie, ça serait un peu prétentieux de dire ça, mais c'est ça qui a fait en sorte que l'espèce de ciment, ça s'est vraiment un vrai groupe.
Vous avez réussi à tisser quelque chose.
Bon, alors qu'il est, on peut s'offrir quand même une petite madeleine.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois, on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois, on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter.
Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez famille formule. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Tu parlais de Plutôt Guitare, ça s'appelait pas encore Autour de la Guitare avec Jean-Félix Lalanne alors.
Alors Autour de la Guitare, il a fait ça après.
Ouais.
Il a, voilà, les concerts où il réunissait pas mal de guitaristes et de chanteurs. Voilà, mais la tournée s'appelait Plutôt Guitare.
Alors par rapport à Maxime Le Forestier, il y a quand même l'un des plus beaux albums de sa carrière qui s'appelle Paraître ou ne pas être, et tu en as signé les musiques.
Toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus belle, mais c'est celle qui m'a plu. Je suis sorti avec elle. Dans la rue, les gens n'avaient plus le même regard. On est pas le même piéton quand on porte une guitare. De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus chère, mais c'est celle qui m'a plu et c'était la première. Comment la faire sonner? On verra ça plus tard. On peut tout faire péter quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare. J'imagine même pas qu'on aura du plaisir à faire saigner nos doigts pour les faire obéir. Qu'elles finissent au musée ou en haut d'une armoire. On a tout à rêver quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare. Avec une guitare.
Alors, je voulais savoir, le fait de vivre, de jouer, d'enregistrer, tourner avec des pointures de la chanson française comme Maxime Le Forestier, par exemple, est-ce que c'est plus ou moins intéressant que de jouer du blues? Mais tu as déjà un petit peu répondu, Manu, quand même.
Ah, écoute, alors, la réponse que je vais te faire, je sais pas d'embellir les choses ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'objet. Hein. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à accompagner. Alors, quand c'est du blues, ça me parle encore plus. Et quand c'est de la variété ou, on va dire, voilà, autre chose, j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Ouais. Et je fais évidemment du mieux que je peux. C'est clair. C'est clair. Et là où j'apprécie particulièrement, c'est quand j'arrive finalement à trouver ma place et que l'artiste lui-même est très content.
Ça m'amène vers la question suivante par rapport à ton rôle de musicien avec ces artistes de variété, de rock, de pop ou de chanson, hein, puisqu'en France, on aime bien labelliser la musique. Est-ce que c'était un travail, alors, petit un, de simple accompagnateur et exécutant, petit deux, une part de création pour la composition aussi, ou même carrément, petit trois, un rôle de directeur artistique, Manu Galvin?
Alors... Alors,
question à tiroir.
Alors, par rapport à Maxime Le Forestier, surtout, parce que c'est, voilà, c'est lui le plus. En fait, j'ai accompagné depuis 91, hein, on joue ensemble, et c'est assez tardivement que j'ai passé le pas de lui proposer, moi, des musiques, parce que moi, ça reste quand même quelqu'un, c'est un excellent chanteur, c'est une plume qui vraiment, il fait des textes qui sont, je trouve, magnifiques, et en plus, c'est un excellent guitariste, c'est-à-dire quelqu'un qui... Donc, il compose ses chansons. Alors, quand... J'ai amené, la première chanson que j'ai amenée, j'étais un peu sur des œufs, et il a accepté ça, parce que peut-être la chanson devait lui plaire, et aussi par amitié. Je pense que, il doit se dire, mais on va en faire quelque chose, voilà, machin, ok. Et depuis, bah, je passais plus souvent, voilà, à l'étape où je proposais des musiques. Il en a pris quelques-unes, je crois par album, il y en a, je crois, deux, peut-être par album à chaque fois, au moins, que je fais ça, voilà. Alors ça, c'est pour le rôle, le fait de composer quelque chose, les musiques qu'il a prises. Maintenant, sur la tournée qu'on vient de terminer, par exemple, et l'album qui s'appelle « Paraître ou ne pas être », l'idée de départ, il nous a dit, hein, il ne voulait pas de directeur musical.
Ouais.
Bon, alors ça, c'est bien, sauf que quand tu te retrouves en studio, il faut bien qu'il y ait une direction à un moment donné. Il faut bien que quelqu'un prenne la décision de faire « est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on garde pas ça ?» Alors, lui, il s'en chargeait pour pas mal de choses, mais plein de fois, je me suis retrouvé, moi, dans la position où on me demandait « qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faut qu'on garde? Est-ce qu'on ne garde pas ?» Bon, voilà. Ou même les structures. Quelquefois, c'était comme ça. Et ça, c'était pour le studio. Et la tournée qui correspond à cet album, donc toutes celles qu'on vient de terminer, je reconnais que sur scène, il y avait Sébastien Quesada qui était aux percussions, il y avait Étienne Roumanet qui était à la contrebasse, il y avait Arthur Le Forestier qui faisait une guitare,
oui, le fils,
Bruno Guglielmi qui faisait une guitare et quelques percs, et moi à la troisième guitare. Et en fait, il a fallu arranger pour les trois guitares tout le temps. Donc tout le répertoire qu'on a fait, c'est moi qui monte au créneau en disant, voilà, on va faire telle partie, il faudrait que toi tu joues ça, je joue ça. Mais j'ai jamais eu le titre de directeur musical, mais en tout cas dans la fonction, je dois quand même dire, c'est pas, j'essaie de pas être prétentieux là-dessus, surtout pas, mais je pense que j'ai rempli ce rôle-là. Quoi.
Est-ce que ça tient aussi au fait que Maxime Le Forestier ne joue plus de guitare?
Il a décidé de laisser la guitare à son fils.
Oui.
Bon, alors j'ai entendu les premières interviews au sujet où il disait il joue mieux que moi. C'est autre chose. Moi, j'ai toujours pensé que Maxime joue toujours très bien. Simplement, quand tu pratiques plus, bah, au bout d'un moment, tu finis par douter un peu. Oui. Et c'est voilà. Et donc là, au début, c'est la première tournée où il fait l'essai de jouer vraiment sans toucher à la guitare. Et puis il était ravi. Bah, je pense que c'est toujours plaisant d'avoir son fils à la guitare qui t'accompagne et qui joue les parties que tu jouais à une époque.
Ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est clair.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Et donc, il a pris beaucoup de plaisir à ça. Et du coup, bah, ça l'a fait, comme on dit, hein. Ça se tenait, quoi. Je veux dire, tu vois, les trois guitares derrière et tout. Pas de problème. Ça lui manquait pas du tout. Donc, voilà. Écoute, c'était une très belle tournée aussi à cause de ça.
Les paroles ne s'envolent. Dommage. Sitôt prononcée, elle reste coincée dans un nuage. Promesse éludée, je t'aime obsolète. Lapsus, boulette, quatre vérités. Rien ne se perd. Rien ne s'oublie, les ronds dans l'air sont infinis. Les paroles ne s'envolent pas. Elle pense
comme elles ne bougent pas, elles ont pris du poids, de l'importance. Le babil des hommes, quand il a grossi, se comporte comme s'il était écrit. Rien ne se perd dans la nature, les ronds dans l'air ont la vie dure. Ça fait quelquefois autant de dégâts que des vieilles bombes. Un jour oublié, vieille blague à deux balles, nom propre, mot sale, secret déterré. Rien ne se perd au fond du ciel, les ronds dans l'air sont éternels. Rien ne se perd, rien ne s'oublie, les ronds dans l'air sont infinis.
J'aurais une autre question à propos d'une autre artiste que tu as accompagnée, parce que tous ceux que j'ai cités tout à l'heure sont toujours là, Eddie Mitchell, Renaud, Souchon, etc. Ouais. Mais on a vu disparaître il y a peu Jane Birkin. Je voulais savoir, toi qui as joué avec elle, quels souvenirs tu en retires ?
Jane Birkin, en fait, la tournée, c'était en 91-92.
Voilà, c'était au moment de la disparition de Serge.
Exactement. Alors, je vais être franc, hein, jusque...
Oui, mais on est là pour ça.
Avant d'accompagner Jane Birkin, avant de la connaître, j'avais toujours une petite pointe d'agacement quand je l'entendais dans les interviews avec cette espèce d'accent qui était volontairement travaillé, qu'on gardait volontairement. Voilà, oui. Bon, c'était un peu comme ça. Et puis, je l'ai rencontré au moment, effectivement, de la mort de Serge Gainsbourg, et j'ai trouvé une personne absolument fantastique. Mais fantastique de sensibilité, de gentillesse, de générosité. Pour moi, c'est la plus belle tournée que j'ai faite de ma carrière de musicien.
Ah oui, carrément.
Voilà. Et l'équipe, il y avait Laurent Faucheux qui était à la batterie, Jean-Yves Callot qui était à un clavier, Gilles Erard qui était à l'autre clavier, et Guy Delacroix à la basse, et Michel-Yves Cauchemann et moi aux deux guitares. Mmh. Voilà. Et l'équipe, c'était une super entente, mais vraiment, la tournée a dû durer quoi, un an et demi, chose comme ça.
Ah oui, quand même.
Et on a pris beaucoup de plaisir à jouer. On a été très ému tout au long de cette tournée, parce que les gens qui venaient, en même temps, c'était tourné comme un hommage à Gainsbourg. Donc, il y avait toujours des chansons où t'avais les trois quarts de la salle qui étaient en larmes.
Mmh.
Je veux dire, mais franchement, c'était quelque chose. Et elle, en dehors de ça, mais qui était une artiste, comme je disais tout à l'heure, d'une générosité, d'une gentillesse, mais dingue, vraiment. Grande tournée, et vraiment une personne que j'ai beaucoup regrettée.
Merci d'être avec moi ce soir. Merci. Petite baby doll, comme tu danses si bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? tu dansais bien le rock and roll. Ex-femme des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly.
Manu Galvin, tu as participé au projet de Jean-Félix Lalanne, donc avant Autour de la guitare, c'était plutôt guitare. Tu as participé également à Solancy. Je voulais savoir ce que tu avais retiré particulièrement de ces expériences de plateau de musicien.
Écoute, c'est le travail de groupe, parce que là, les choses que tu as citées, à part plutôt guitare, encore une fois, ça, plutôt guitare, c'est Maxime, hein. C'est pas Jean-Félix. Hein.
Ouais,
pas Jean-Félix, c'est pas du truc, mais voilà. Mais les Solancy, les choses comme ça, tu vois, ce que tu as cité à l'instant, moi, c'est le travail d'accompagnateur. Et dans ces cas-là, moi, j'étais pas du tout ni directeur musical ni quoi que ce soit, j'étais juste un simple musicien. Accompagnateur. Et je veux dire que j'apprends beaucoup de choses, enfin j'ai appris beaucoup de choses à cette époque-là. Encore une fois, tous les gens que j'ai croisés en vrac, hein, je te dis, il y avait Jean-Jacques Milteau qui était là toujours. Jean-Jacques Milteau, c'est mon frère de son.
Mais oui.
Tu vois, voilà. Il y avait Jean-Yves D'Angelo qui s'occupait de la direction musicale sur Solancy. Basile Leroux, je l'ai découvert à ce moment-là. Tu vois, où j'ai pu jouer avec lui à ce moment-là. J'ai pu Guy Delacroix qui était encore là. Enfin bon, Loïc Pontieux. Enfin, moi, j'apprenais beaucoup parce que c'était des gens qui étaient beaucoup plus. Qui maîtrisaient ce métier beaucoup mieux que moi. Donc, j'essayais de me faire petit, sans mauvais jeu de mots par rapport à ma taille. Hein. Mais voilà.
Pour se faire petit à côté de Basile Leroux, c'est pas difficile non plus. Voilà. Basile Leroux qui a failli être le mari de Véronique Sanson, une l'époque, paraît-il.
Ah, j'ai pas été jusque-là, je ne sais pas, mais si tu me le dis,
C'est ce qu'elle avait dit sur scène, je ne sais pas si c'était pour rigoler. On va passer un petit peu au blues, si tu veux bien, Manu. Ouais. Manu Galvin, côté blues, donc tu as notamment accompagné, tu le disais tout à l'heure, Sugar Blue, mais aussi des gens comme Melvin Taylor, Eddie Shaw, ouais. Jimmy Johnson, Eddie C. Campbell, voilà, par rapport aux Américains, j'avais une question, donc en dehors de ce que tu as pu partager avec Jean-Jacques Mitteau, en blues, il y a eu vraiment beaucoup d'autres belles expériences. Est-ce que tu peux nous révéler à propos des différences d'approche des Américains par rapport aux Français, est-ce que musicalement et culturellement parlant, tu as senti de grosses différences à jouer avec eux?
Alors, je ne sais pas si elle était réelle au niveau du contenu, enfin de ce que les gens entendaient, mais moi je peux te dire qu'au niveau psychologiquement, en tout cas, il y avait quelque chose d'assez particulier. J'avais l'impression de jouer, enfin c'est... Oui, avec les maîtres, ceux qui ont créé cette musique. Ouais. À chaque fois. Après, ils sont plus ou moins bons dans leur catégorie. À chaque fois, tu sais ce qu'on dit. Hein. En fait, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire, en fait, les gens, quand ils arrivaient ici, c'était des vedettes. Et une fois qu'ils rentraient chez eux, c'était des gens qui retournaient avec leur... Il y en a plein qui avaient un second métier à tel point. Tu vois, les types étaient un peu... Ils n'étaient pas forcément professionnels dans leur là-bas aux États-Unis. Mmh. Mais en tout cas, quand ils arrivaient, je prends le cas dans ceux que tu as cités, moi, mon cœur va tout de suite vers Jimmy Johnson.
Eh oui.
Mais tu vois, j'ai eu la chance, si tu veux, j'allais, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais à chaque fois à Bagneux au festival de Chicago Blues, tu vois, qui avait lieu chaque année.
Mais voilà. Bien sûr, on a dû s'y croiser d'ailleurs.
T'es bien placé pour le savoir, voilà.
Oui.
Et donc, la première fois où je me suis retrouvé, pour une fois sur scène, à jouer, mais j'étais sur un nuage, et ouais. C'était au sein de l'équipe de Jimmy Johnson. Et je pensais qu'il m'appellerait pour faire un ou deux morceaux, et en fait, il m'a dit non, tu fais le concert avec nous. Donc, en fait, j'étais le seul blanc sur scène. Tu vois, et j'assure, j'étais dans mes petits souliers, je sais pas comment te dire. J'étais ému toute la soirée, mais c'était quelque chose pour moi.
Oui, je vois très bien de quoi tu parles.
Un souvenir immense, bien immense, sûr. Immense. Mais vraiment.
Jimmy Johnson qui nous a quittés il y a 3 ans, qui a atteint un âge vénérable, hein. C'est vrai qu'il a ouais. beaucoup profité, on va dire, qui a été découvert dans les années 70 par Marcel Mangantini, Jacques Mangantini, et qui a eu une reconnaissance, on va dire, relativement tardive. Hein. Il est venu en France, il avait quoi, déjà 55, 60 ans presque.
Ah oui.
Et
oui.
Je pense qu'on a bien profité de ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu nous offrir.
En tout cas, qu'est-ce que j'ai aimé, d'une part son jeu de guitare, parce que j'adore, sa manière de jouer, et sa voix au
perché. Sa voix, bien sûr.
Enfin,
ouais.
J'ai adoré ça.
Véritable signature.
Vraiment.
Eddie Shaw, cité tout à l'heure, l'ancien saxophoniste de Howlin' Wolf aussi, lui, tu as pu le côtoyer, jouer avec lui, ça c'est extraordinaire.
Voilà.
The blues. The blues. The only friend I know. The blues, the blues, the only friend I know. She won't
be back no more. Ouais, oui, alors, c'était, voilà. Ah, ça me fait drôle de repenser à ces choses-là.
C'était quoi, véritablement, leur approche culturelle, musicalement parlant? Parce que c'est vrai que tu vois que le fait que l'hymne les prophètes en son pays, on a plein d'exemples comme ça de musiciens qui travaillent 7 jours sur 7 et qui se produisent le vendredi et le samedi. Mais quand ils sont là, tu le disais, ce sont des vedettes, ce sont les vedettes américaines, hein, comme on dit depuis longtemps. Mais culturellement parlant, est-ce que ce sont d'abord des musiciens ou d'abord des bluesmen, selon toi?
Ah, écoute, pour moi, ce sont d'abord des bluesmen. En fait, c'est eux qui ont les clés. Je ne sais pas comment te dire. Ouais. Peut-être ça paraît un peu ridicule à ce que je dis, mais je suis tellement fan de cette musique, tu vois, que moi, bon, encore une fois, quand ces musiciens arrivaient, pour moi, c'était encore une fois des maîtres et je prenais des leçons, je ne sais pas de quoi, des leçons. Mais t'as l'impression que, écoute, t'entends, pour en parler de Jimmy Johnson, j'entendais faire 3 notes sur la guitare, tu te dis, si moi je les joue, ça sonne pas comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est peut-être le passé culturel, le poids de la culture qui fait la différence.
C'est vrai.
Moi, j'ai toujours grandi, j'ai manqué de rien, qu'est-ce que je te dis? Moi, j'ai habité Montreuil,
T'as pas travaillé dans un champ de coton du tout, quoi.
Non, mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois arriver des gens, le poids de la culture, tu veux tout ce qui a été tout le vécu, ça pèse, quoi.
C'est ça qui fait la différence, peut-être.
Pour moi, c'est d'abord, c'est la culture qui fait la différence, et maintenant, dans les talents de musiciens, oui, c'était tous des excellents musiciens. Je me souviens, tout à l'heure, t'as parlé de Melvin Taylor. Melvin Taylor.
Oui, alors techniquement parlant, lui, c'est vraiment une vedette aussi. Hein.
J'avais l'impression d'entendre. C'était un peu le porte-clés de Benson, quoi. George Benson, ouais. Quoi, il avait un côté à jouer toute vitesse comme ça et tout. Je me disais, comment il fait? Enfin, tu vois, là, c'était pas du tout moi ma manière de jouer, mais j'étais admiratif, tu vois. Le type, il avait une espèce de phrasé qui était très impressionnant, en fait. Hein. Très impressionnant.
Voilà, c'était cette interview avec pas mal d'extraits musicaux. Johann Strauss pour La Valse de l'Empereur, création 1874. Les Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Albert King, Born Under a Bad Sign. Muddy Waters avec Manish Boy. Sugar Blue pour la reprise de Help Me. Jean-Jacques Milteau avec Manu Galvin pour LTG Solo. Jean-Jacques Milteau avec Michael Robinson, Ron Smith et Manu Galvin pour Long Time Gone. Patrick Verbeek avec du blues dans le boogie. Nous étions en 1981. Patrick Verbeek pour De quoi je vais me plaindre, Benoît Blueboy, Descendre en café en 1979, le même Benoît Blueboy pour C'est moi qui tiens le volant, Michel Jonas, du blues, Maxime Le Forestier avec Manu Galvin, Michel Aumont et Jean-Félix Lalanne pour La Petite Fugue, Maxime Le Forestier encore avec une guitare et Les ronds dans l'air, deux morceaux écrits par Manu Galvin pour Maxime, Jane Birkin avec Ex-Fan des 60s, Jean-Jacques Milteau pour Whoosh, Jimmy Johnson, My Ring, Eddie Shaw featuring Melvin Taylor et Ken Sydak avec Blues Dues, Jimmy Johnson pour That Will Never Do, et là, à l'instant, c'était Dirty Pool de Melvin Taylor. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux invités, Jacques Perrotte, Greg Bedry et Patrick Payat. On parlera de Led Zeppelin, et puis ce sera la deuxième partie de cette interview de Manu Galvin. Salut, bye bye.
Je mate la ville en varas qui se déplace, se maquille, s'habille et me sourit. De quoi je vais me plaindre, de quoi je vais me plaindre aujourd'hui. Oh oui. Un bon petit déj, un vrai breakfast,
Avec du café, du bacon, c'est un must. Un air de blues à la radio, ça me jette tous les neurones en stéréo. De quoi je vais me plaindre, de quoi je vais me plaindre aujourd'hui. Ah, de quoi je vais me plaindre avec monsieur Claude Langlois à la pédale steel guitar. Ne veut pas démarrer. Là où je vais, je peux toujours aller à pied. Oui, tout le long, le long, le long de la journée, les petites galères nécessaires me font marrer. Onze heures du soir, je me sers à boire. La fille d'en face me rejoint et m'embrasse. John Lee Hooker et B.B. King et Luther Allison à la radio. Je sais pas ce qui se passe, il commence à faire très très chaud. De quoi je vais me plaindre, de quoi je vais me plaindre aujourd'hui. Oh oui, de quoi je vais me plaindre, de quoi je vais me plaindre aujourd'hui. Oh oui, de quoi je vais me plaindre. De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? What am I gonna complain about today? De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? Mais de quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Oh, de quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? Mais de quoi? Oh oui, de quoi? De quoi pourrait-on se plaindre, mon cher Pascal? Sur la patate, je dois dire. C'est non, c'est pas comme ça qu'on avait répété. Tu devais nous dire, avec ce magnifique petit harmonica que tu tiens entre les doigts, de quoi je vais me plaindre au Lionel Hampton Jazz Club de l'Hôtel Méridien Étoile à Paris aujourd'hui. Tu peux dire ça? Non, je te vois partir. Non. Avec feeling, s'il te plaît. Alors, avec beaucoup de sensibilité, please, please, Paco, have mercy. Voilà. Là, ça commence bien. Oh. Ceci était censé vouloir dire de quoi je vais me plaindre au Jazz Club Lionel Hampton de l'Hôtel Méridien Étoile à Paris aujourd'hui.